Et les matins débutent avec le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Des feux d'artifice à Beyrouth, les Libanais ont célébré hier la démission de leur Premier ministre. Reportage dans les rues de la capitale.
Les magistrats algériens font grève, une grève illimitée et inédite. On reviendra sur la raison de cette colère.
Le monde des affaires a-t-il déjà oublié Jamal Khashoggi? Un an après l'assassinat du journaliste saoudien, les entreprises étrangères sont de retour au Davos du désert. Il s'est ouvert hier en Arabie Saoudite. La CNIL s'oppose à l'installation d'un système de reconnaissance faciale dans deux lycées du sud de la France. Il devait s'agir d'une expérimentation. Et la question du jour, Guillaume?
Eh bien, dans une dizaine de minutes, Margot, on va se poser une question de terminologie. Qu'est-ce qui définit un attentat? On posera la question à l'historienne Jenny Raflick.
Une courte allocution télévisée a provoqué des scènes de liesse au Liban. Le Premier ministre du pays, Saad Hariri, a annoncé hier sa démission et celle de son gouvernement au 13e jour d'une révolte populaire. Les habitants réclamant le départ de la classe politique qu'ils jugent corrompue, ils subissent régulièrement des pénuries d'eau et d'électricité et plus d'un quart des Libanais vit sous le seuil de pauvreté. C'est pourquoi, malgré cette victoire, ils restent mobilisés. À Beyrouth, le reportage de Chloé Doma.
Quelques heures après le discours de Saad Hariri, la capitale libanaise était en fête. Sono et musique à fond au carrefour de plusieurs quartiers. Des Libanais de tous les âges étaient réunis pour célébrer la chute du Premier ministre. Mais pour Zena, une activiste de 63 ans, ce n'est pas assez.
Je pense que c'est un bon pas, une étape de gagner dans les revendications que réclame une grande partie du peuple. Mais ça ne suffit pas.
Depuis deux semaines, les manifestants dénoncent la corruption de l'ensemble de la classe politique. Leur slogan, tous, ça veut dire tous.
La démission du gouvernement, ça ne veut pas dire la fin de nos problèmes. Qu'est-ce qui nous garantit que les mêmes ne vont pas revenir?
Mais dans un pays où cohabitent 18 confessions religieuses, le spectre de la violence communautaire n'est jamais loin.
Je ne suis pas très optimiste. Vous pouvez voir plein de gens ici, en apparence très ouverts, mais on vient tous d'un environnement différent. On entend des choses terrifiantes, il y a beaucoup de menaces.
Malgré les doutes, les manifestants sont déterminés à rester dans la rue jusqu'à la formation d'un gouvernement de technocrates.
Le Liban, désormais plongé dans l'inconnu, ce qui inquiète le Hezbollah, puissant parti chiite, devenu ces dernières années la force politique la plus influente du pays, Omar Waman.
En annonçant la démission de son gouvernement, Saad Hariri a provoqué la colère du Hezbollah. Le parti chiite, incontournable sur la scène politique libanaise, a tout à perdre de l'ambiance de dégagisme qui règne au Liban. Tous les partis ont profité du système, y compris le Hezbollah. Son chef, Hassan Nasrallah, a bien tenté d'apaiser la tension populaire en promettant, dans un discours télévisé, de lutter davantage contre la corruption. Mais les manifestants ont surtout retenu ses propos visant à les discréditer ou à les intimider. Un ton martial et une menace, celle de la guerre civile qui pourrait selon lui faire son retour si les manifestants devaient poursuivre leur mouvement. Mais il n'a pas été écouté partout dans le pays et notamment dans le sud. Pourtant, fief du parti chiite, des milliers de Libanais ont continué à descendre dans la rue. En soutenant le gouvernement face aux manifestants, souvent très jeunes, le Hezbollah a prouvé qu'il était devenu un parti comme les autres.
Omar Waman, nous reparlerons de la situation au Liban avec Camille Magnard dans sa revue de presse internationale à 7h35. Pour le 36e mardi consécutif, des manifestants ont défilé hier dans les rues d'Alger. 2000 étudiants dans la rue pour demander notamment la libération des détenus arrêtés pendant ce mouvement de contestation. Aussi dans la rue, des proches de manifestants détenus, agacés par la grève des magistrats, très suivis et qui depuis dimanche paralysent selon eux le bon déroulement de la justice dans tout le pays. Les tribunaux sont bloqués, les verdicts repoussé et les audiences annulées, Leïla Berato.
Tout commence jeudi dernier. Le ministère de la Justice annonce que près de 3000 magistrats vont être mutés, une décision inhabituelle de l'aveu même des autorités, car elle concerne presque les trois quarts de la profession. Le ministère affirme vouloir rétablir la crédibilité de la justice, renforcer son indépendance et donner une image de juges honnêtes et intègres. La colère monte très rapidement et samedi, les magistrats annoncent qu'ils lancent une grève illimitée. Ils dénoncent les conditions dans lesquelles sont prévues ces mutations et demandent le gel de la décision. Depuis dimanche, les tribunaux et les cours du pays tournent au ralenti. Certains sont paralysés. Les syndicats estiment que 90% des magistrats ont cessé le travail. Dans la capitale, le premier verdict attendu de plusieurs manifestants arrêtés avec un drapeau berbère n'a pas été donné et les procès des autres détenus qui devaient avoir lieu cette semaine seront probablement reportés. Ce mardi, des sittings ont eu lieu dans différentes villes du pays. Le dialogue entre les magistrats et le ministère semble bloqué. Le Conseil supérieur de la magistrature en appelle, lui, au président par intérim, Abdelkader Ben Salah.
La correspondance de Leïla Berrato en Algérie. Après 3 échecs, 1 succès. Hier, les députés britanniques ont très largement voté pour l'organisation de législatives anticipées le 12 décembre prochain, comme le souhaitait le Premier ministre Boris Johnson. Cette fois-ci, c'est passé grâce au soutien d'élus travaillistes dans l'opposition. Le texte doit encore recevoir aujourd'hui l'aval des Lords. Boris Johnson espère qu'il aura une majorité absolue à ces élections pour procéder au Brexit, la tant discutée sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.
7h05 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. On l'appelle le Davos du désert.
Un événement de 3 jours à Riyad, en Arabie Saoudite, pour attirer les investissements étrangers qui réunit 300 participants venus de 30 pays. Il doit aider à réparer l'image du prince héritier, tenu pour responsable par une experte de l'ONU et la CIA du meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi l'an dernier. C'est pourquoi de nombreux intervenants avaient annulé leur venue lors de la précédente édition. Aujourd'hui, les investisseurs étrangers sont de retour, y compris les Français, parce que le pays reste une opportunité économique très intéressante, selon Ardavan Amiraslani, avocat du droit d'affaires franco-iranien.
Il y a un besoin, effectivement, de produits étrangers. C'est un pays qui a de très graves lacunes dans le domaine des infrastructures, dans le domaine industriel. Et aujourd'hui, l'Arabie Saoudite représente une mine inépuisable de possibilités d'investissement. Et les sociétés françaises cherchent, comme toutes les autres sociétés européennes d'ailleurs, à avoir une part du gâteau. Le problème est que l'Arabie Saoudite aujourd'hui souffre d'un déficit d'image radical. Mohamed Ben Salman, le prince héritier, qui est l'homme fort du pays, n'a pas laissé que de bons souvenirs dans les relations internationales. L'épisode de l'assassinat de Khashoggi, sa tentative de kidnapping du premier ministre libanais Hariri, la guerre que ce pays mène contre le peuple yéménite qui a entraîné la mise dans une situation de famine extrême de 8 millions de personnes, le blocus du Qatar, ont fait que ce pays a une image désastreuse à l'échelle internationale. Alors les ambassades françaises, bien sûr, sont particulièrement intéressées par l'argent de ce pays, mais ne sont pas disposées à voir leur nom s'afficher aux côtés de ce pays.
Ardavan Amiraslani, avocat et auteur de l'ouvrage « Arabie Saoudite, de l'influence à la décadence », propos recueillis par Diane Berger. Le Sénat a adopté hier la proposition de loi du parti Les Républicains interdisant le port de signes religieux aux parents accompagnant les sorties scolaires. La sénatrice socialiste des Bouches-du-Rhône, Samia Ghali, n'a pas réussi à obtenir son retrait, ce qu'elle aurait trouvé sage au lendemain de l'attaque qui a fait 2 blessés devant la mosquée de Bayonne. Le texte a peu de chance d'être voté ensuite par l'Assemblée nationale où La République En Marche est majoritaire. Emmanuel Macron est revenu hier sur cette attaque à Bayonne. L'homme suspecté d'avoir tiré est un ancien candidat d'extrême droite qui a expliqué avoir voulu venger la destruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il attribue l'incendie aux musulmans par ses temps plutôt sensibles et puisque la définition de la laïcité est débattue en ce moment, le président de la République a donné la sienne.
La laïcité telle que la concevait Aristide Briand est d'abord un principe de liberté. La laïcité est un principe d'égalité. Dans notre République, la religion, jamais, ne peut justifier qu'un citoyen se soustrait à la loi. Mais croire ou ne pas croire ne saurait constituer non plus une cause de discrimination. La laïcité, enfin, est un principe de fraternité qui doit vivre en chaque Français comme une boussole dans son rapport aux autres citoyens, quelque chose qui a trait au fond à une forme de civilité française. Et je tenais très simplement à le rappeler en ce moment de la vie de la nation où cette valeur d'union et de cohésion est parfois dévoyée, instrumentalisée par ceux qui, voulant semer la haine et la division, s'en servent pour mener le combat contre telle ou telle religion. Et je veux avoir une pensée amicale et républicaine pour nos compatriotes gravement blessés à la mosquée de Bayonne. La République fait bloc autour d'eux, comme elle fait bloc autour de chacun de ses enfants, lorsque l'obscurantisme et l'intolérance réapparaissent.
Emmanuel Macron, hier, pendant l'inauguration du Centre européen du judaïsme à Paris. Et si des lycéens pouvaient entrer dans leur établissement scolaire grâce à la reconnaissance faciale, une expérimentation devait être menée dans deux lycées, les Eucalyptus à Nice et Ampère à Marseille. Mais hier, la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, n'a pas donné son feu vert. Elle s'y oppose, estimant que ce n'est ni nécessaire ni proportionné, Fiona Mogadam.
Les données biométriques sont considérées comme particulièrement sensibles et nécessitent une protection renforcée, d'après la CNIL, qui considère la reconnaissance faciale comme un dispositif particulièrement intrusif et qui présente des risques majeurs d'atteinte à la vie privée et aux libertés individuelles. La CNIL ajoute dans son avis que ces systèmes créent un sentiment de surveillance renforcée. Dans le cas précis, la reconnaissance faciale devait servir à sécuriser l'entrée de deux lycées à Nice et Marseille et éviter les intrusions. Seuls les mineurs volontaires auraient eu à passer par ces portiques, mais la CNIL estime qu'un contrôle par badge est suffisant et que la mise en place de la reconnaissance faciale apparaît disproportionnée. Une victoire pour la Quadrature du Net, vivement opposée à tout dispositif de reconnaissance faciale. Le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur juge, lui, cette décision regrettable. Un blocage qui va à l'opposé de la dynamique actuelle et qui est incompréhensible, écrit sur Twitter Renaud Muselier. Pour Christian Estrosi, maire de Nice et autres porteurs de cette expérimentation, la CNIL démontre son rejet de toute forme d'évolution. Rappelons que cet avis de la CNIL n'est pas contraignant, mais pourrait-il faire jurisprudence ? La commission dit étudier actuellement plusieurs cas d'usage de reconnaissance faciale. Christian Estrosi et Renaud Muselier ont déjà annoncé qu'ils déposeraient très rapidement un nouveau dossier pour expérimenter la reconnaissance faciale dans les lycées.
Et hier, la CNIL a cette fois adressé un avertissement à la ville de Saint-Étienne. Elle souhaitait expérimenter des micro-capteurs de bruit suspect dans l'espace public, comme des cris ou des coups de feu. Mais ils auraient pu capter des conversations privées et donc des données sensibles. Pour en savoir plus sur la reconnaissance faciale, rendez-vous sur notre site franceculture.fr, rubrique hashtag. Attention au brouillard ce matin sur la façade ouest. Peu à peu, la grisaille va se dissiper. La météo sera variable dans le sud-ouest. Le ciel reste sera nuageux du Limousin à la Franche-Comté en passant par les Hauts-de-France. Il fait ce matin entre 2 et 7 degrés au nord de la Seine, 7 à 13 sur le reste du pays et jusqu'à 17 près de la Méditerranée. Cet après-midi, les températures maximales seront de 9 degrés à Lille, 10 à Paris, 11 à Strasbourg, 15 à Brest et 20 à Bordeaux et Marseille, Guillaume.